Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce nouveau podcast Instant Whoopsie avec comme thématique principale Oser entreprendre. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre des parcours variés avec nos invités et souvent non linéaires, aborder aussi les réalités de l'emploi et toutes les difficultés pour les jeunes à s'insérer dans le monde du travail, à vivre de leur travail et à trouver du sens. Je vous laisse vous présenter. Qui commence?
Bonjour, je m'appelle Ong Fationg, 34 ans et je suis gérant d'un bar à jeux et d'une boutique de jeux de société à Dax. Ça va faire 4 mois que j'ai ouvert et ça se passe plutôt bien.
Ok, quelle est ta vision d'entrepreneuriat, ta définition?
Pour moi, c'est un moyen de s'épanouir professionnellement en étant autonome, maître en fait des décisions que l'on souhaite prendre, la vision qu'on a du monde de l'entreprise.
Lio, tu continues?
Bonjour, moi c'est Lio. Je suis photographe indépendant et artiste auteur dans le secteur des Landes, majoritairement sur Mont-de-Marsan. J'interviens sur tout type d'événements pour l'instant, donc que ce soit de l'événement musique, en mariage, shooting interne pour des personnes, tout type de prestations, et avec une pratique de photographie assez pluridisciplinaire, donc c'est-à-dire la photographie numérique, argentique et autres procédés que je me forme à tous les jours à faire dessus. Et ma pratique d'artiste-auteur est centrée majoritairement sur la représentation des personnes non binaires, transidentités, et des questions assez engagées dans la société.
Ta vision donc de l'entrepreneuriat,
Ma
comment tu le
vision,
définis?
je définis d'une manière où l'entrepreneuriat est quand même une liberté pour moi de pouvoir entreprendre ce que je souhaite sans avoir la contrainte d'une vision d'entreprise, et sachant qu'aussi dans le secteur artistique, l'entrepreneuriat est la meilleure des solutions pour pouvoir s'épanouir et vivre de sa création.
Bonjour, moi c'est Dorian Bazerque, donc je suis enseignant en activité physique adaptée et préparateur physique et mental sur Bayonne. Et donc moi je suis auto-entrepreneur depuis un petit peu plus de 10 ans et en parallèle j'ai créé une SCI pour développer en fait un espace où on se retrouve entre auto-entrepreneurs pour pouvoir exercer de façon libérale et avoir une liberté que je pouvais pas avoir forcément en structure. La SCI, c'est une société civile immobilière qui m'a permis en fait de créer un espace, de pouvoir l'acheter pour ensuite pouvoir louer et mettre à disposition en fait des bureaux et une salle d'activité ou de formation. Enfin, on peut l'utiliser sous différents process, mais c'est une structure en fait juridique qui permet d'acquérir un local. Enfin, en tout cas, moi qui m'a permis d'acquérir un local. Parce que l'auto-entreprise seule, je pouvais pas forcément exercer, je faisais des séances à l'extérieur, mais il me fallait un local pour pouvoir faire les séances.
Et quelle est ta vision ou ta définition de l'entrepreneuriat?
L'entrepreneuriat, c'est vraiment avoir une liberté d'intervention, pouvoir intervenir de la façon que je veux, avec les publics que je veux, sans forcément rendre des comptes et attendre après une structure pour par exemple acheter du matériel, pour mettre en place telle séance, telle formation. C'est vraiment une liberté.
Si vous deviez résumer votre parcours, ce serait quoi? Pour en arriver jusqu'à l'entrepreneuriat, comment vous en êtes arrivé là?
Moi, mon parcours, il a été, je pense, ça s'est fait un peu par le fruit du hasard, parce que à l'origine, je voulais pas du tout être entrepreneur. Donc, je m'en voyais pas du tout là-dedans. J'étais pour être employé. Et au final, quand je me suis retrouvé à être employé d'une entreprise, eh ben, ça m'a pas convenu. Donc, je me suis. Les choses ont fait que j'ai fini par me tourner vers l'entrepreneuriat.
Durant mon parcours, j'ai commencé avec des études parce que je voulais me rediriger dans le monde artistique. Donc je me suis dit pourquoi pas me former au début à essayer de trouver un moment comment y entrer, comment aller dans cet univers-là. Donc je me suis positionnée sur plusieurs niveaux de l'artistique. Donc j'ai commencé une licence art plastique sur Strasbourg pour ensuite descendre en master à Bordeaux, et après le master je me suis dit après m'être spécialisée dans la photo, je me suis dit mais il faudrait que j'aille plus loin dans cette démarche-là, et je me suis du coup tournée vers l'entrepreneuriat. mais je savais pas comment y accéder. C'était vraiment une question qui était assez dure pour savoir mais comment faire, parce que administrativement parlant, on n'avait jamais parlé durant mes études de comment entrer dans le fait d'être artiste et aussi d'être en micro-entreprise. Donc c'est de là que j'ai commencé à me tourner après auprès de la mission locale et de la structure du Café Musique, qui m'ont beaucoup aidé avec Projet Opus. Et c'est grâce à eux que j'ai pu comprendre un peu tout ce que c'était l'entrepreneuriat et que après, en octobre, j'ai commencé à créer mon entreprise pour pouvoir après proposer des prestations et commencer mon travail artistique.
Si je peux te poser une question, c'est quoi le projet Opus, s'il te plaît?
Projet Opus, c'est une semaine de formation qui se passe au Café Musique à Mont-de-Marsan, donc qui est en partenaire avec le Rocher Palmer, qui aide les jeunes justement à s'insérer dans la culture. Donc c'est une semaine où on est formé un peu avec plusieurs dispositifs, donc du webinaire, du numérique, mais également à voir qu'est-ce qu'on veut faire par la suite. Donc cette semaine est un projet où on va co-construire avec plusieurs jeunes. Là, cette année, on était sept, il me semble. Donc on a construit un clip de musique. Donc on a été un peu initié à faire du montage, faire de la musique, à écrire, à être ensemble. Et on a été suivi par le Rocher Palmer et le Café Musique, qui a ensuite découlé pour certains du groupe à aller 2 mois en formation plus complète, plus approfondie sur ce nom au Rocher Palmer. Et d'autres être en mécénat, donc être suivis avec le Café Musique, donc avec plusieurs médiatrices culturelles, dont Fatima au Café Musique, et qui nous accompagne tous les jours pour des projets. Ben là, ne serait-ce que le projet Opus a découlé où avec une fille qui était avec moi, on sort un livre un recueil de poèmes qui sort en juin. Il s'appelle À fleur de pensée. Mais je le dis pas trop pour voir si vous êtes tous intéressés à y aller. C'est le 11 juin à 18h au Café Musique.
Parfait.
Voilà.
Dorian.
Comment je suis arrivé à l'auto-entrepreneuriat? Donc, quand j'ai commencé, j'ai bossé dans beaucoup de structures différentes, des structures de soins, des cliniques, des hôpitaux. J'ai eu la chance de trouver sur Bayonne un auto-entrepreneur, Edson Bands, qui a lancé, entre guillemets, l'activité physique adaptée sur le secteur, avec d'autres appâts même. Et en fait, j'ai vu un petit peu cette vision auto-entrepreneuriale. Mais moi, j'avais un objectif à cette époque-là, c'était vraiment d'avoir un CDI. Je pense que culturellement ou familialement, il y avait vraiment cet objectif qu'on m'avait transmis d'avoir un CDI pour avoir la sécurité et pouvoir exercer toute sa vie, peut-être dans la même boîte ou autre, pour faire comme mes parents ou mes grands-parents. Donc quand j'ai eu ce CDI, j'étais super content et je me suis vite aperçu après qu'il y avait plein de limites en fait dans la structure dans laquelle je travaillais. Et je me suis rappelé un petit peu mes débuts et je me suis dit pourquoi pas en fait créer une auto-entreprise pour pouvoir faire une activité, créer vraiment mon activité et la faire coller au mieux avec ce que je peux proposer sans avoir les difficultés structurelles en fait. Je l'ai dit tout à l'heure, mais l'achat de matériel, pouvoir monter une séance ou un corps de séance, et des fois il fallait 6 mois, 1 an avant que ce soit validé par la direction. Enfin, c'est assez compliqué. Je trouve que dès qu'on est motivé, ça a tendance à retomber un petit peu. Et donc là, avec l'auto-entreprise, enfin, je sais qu'à une époque, je râlais beaucoup par rapport à ce manque de décision, etc. Donc je me suis dit, soit je râle toute ma vie après des gens à qui je dois rendre des comptes, soit je vais essayer de faire différemment et me lancer. Et si là, ça fonctionne pas, je pourrais m'en prendre qu'à moi.
Eu un moment de bascule en fait. Je vous avais posé la question, quel a été le moment de bascule dans votre parcours, mais pas forcément. Et est-ce qu'il y a eu un moment clé qui vous a dit, là, c'est bon, je me tourne vers le statut d'auto-entrepreneur, parce que j'en ai marre. Est-ce qu'il y a, il y a, il y a un moment clé?
Ouais, moi c'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est j'avais monté un projet, je crois que c'était de boxe et émotion, pour accompagner. Là, c'était avec des personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire, et c'était vraiment pour essayer de libérer les personnes. Et une fois que j'ai monté ce projet, je sais plus, il m'a fallu je pense 1 an avant que le projet soit validé, sans forcément avoir de réponse avant. Et là, je me suis dit, ouais, je peux pas attendre que les gens prennent des décisions ou soient occupés à autre chose pendant que des personnes auraient besoin de ce genre de séance et que moi je sois vraiment dans cette attente-là.
Est-ce que vous aussi, vous avez un moment de bascule ou non?
Je travaillais pour une boîte enfin, j'étais prestataire dans une boîte qui m'envoyait en mission en entreprise chez quelqu'un. Et finalement, j'ai fini par quitter cette entreprise-là pour aller dans une autre entreprise de distribution. Et ce qui m'a permis de prendre du temps de réfléchir sur ma situation et prendre le recul nécessaire pour savoir ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais retourner dans enfin, c'est juste essayer de retrouver un taf qui me convienne mieux ou justement me lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est ce que j'ai choisi, quoi.
Un moment de bascule.
Personnellement, en fait, j'avais fait beaucoup d'emplois lors de mes études et je me suis rendu compte que vraiment le service, le moment d'être salarié, en fait, ça me convenait pas du tout. En fait, c'était beaucoup de stress et le fait de toujours aussi répéter la même chose tous les jours, à me lever, avoir un cadre tout le temps à faire, ne serait-ce qu'une tâche. En fait, c'était un cadre qui me convenait pas du tout et c'est pour ça que je me suis dit, mais à la fin de mes études, il faut que je trouve le moyen de rentrer dans le monde de l'auto-entrepreneuriat parce que j'ai l'impression d'être complètement incapable d'être dans une entreprise et dans ce cadre de salarié. Socialement parlant, surtout, en fait, socialement parlant et physiquement parlant, sachant qu'il y a pas mal d'emplois où je peux plus avoir accès suite à des problèmes de blessures que j'avais eu au passé. Et, du coup, ça me limite énormément dans tout ce qui est manutention, tout ça. Je peux plus. Donc du coup, je me suis vraiment redirigée dans micro-entreprise et voilà.
Cette trajectoire montre donc que les chemins ne sont pas toujours linéaires, mais elles s'inscrivent aussi dans un contexte plus large, la réalité de l'emploi. Est-ce que on peut encore vivre correctement de son travail aujourd'hui, à votre avis?
C'est encore un peu tôt pour le dire, parce que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Donc actuellement, je suis pas capable d'avoir un salaire. Parce que l'entreprise passe entre guillemets avant moi. Faut qu'elle réussisse à tourner correctement avant que je puisse me fournir un salaire. D'ailleurs, on dit souvent que au moins la première année, peut-être voire même les 3 premières années, on se verse pas trop de salaire. C'est pour ça que il est hyper important d'être entouré correctement des bonnes personnes qui puissent vous soutenir. Que ce soit d'ailleurs là maintenant dans le développement d'entreprise, mais même en amont, quoi, parce que l'entreprise demande, l'entrepreneuriat en tout cas demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement, que ce soit personnel, même financier. C'est un peu une espèce de pari où on met un peu tout ce qu'on a et en espérant que ça suive derrière. Et malheureusement, ça suit pas toujours. Donc il faut, je pense, faire hyper attention lorsqu'on souhaite créer son entreprise, à pas trop rêver trop grand, peut-être trop vite. Vraiment prendre en compte qu'il y a une inertie assez importante dans la création de l'entreprise, qu'on va pas forcément rentrer dans une espèce de rentabilité tout de suite, qu'il y a beaucoup de risques à ça et que faut savoir modérer un peu ses prévisions et savoir quelles sont aussi les évolutions possibles que peut avoir son entreprise. Enfin, savoir comment on peut la faire évoluer, comment on peut la rendre rentable. Parce que sinon, on se retrouve vite coincé un peu en étau entre l'évolution, enfin la vision qu'on avait de l'entreprise et comment les leviers sur lesquels on pourrait agir pour la rendre créative, entre guillemets.
Quelque chose à rajouter sur si vous pouvez vivre correctement de votre travail aujourd'hui?
C'est une question qui est assez compliquée à estimer parce que quand on est là pour essayer de voir comment est la rentabilité, surtout que pareil également, je suis surtout dans le côté saisonnier où qui va avoir une période plus estivale propice pour tout ce qui est prestations. Bah là, pareil, bah, c'est une question aussi, pareil, où il faut fixer comment c'est pris, exact, essayer de les mettre de façon que ça soit pas trop en dessous du marché, mais faire en sorte que, bah, vu que je débute, bah, ça soit pas non plus super haut, mais de manière à que ça soit rentable. Et encore aujourd'hui, tirer un salaire est super complexe.
Il y a un vrai sujet là-dessus sur savoir quel prix on met.
C'est ça, la légitimité, comment se mettre les prix, se faire valoir. Et ça, c'est très compliqué à estimer. Et le calcul de comment faire, bah, c'est surtout à voir, bah, comment les investissements de départ, donc avec le matériel, le temps qu'on y passe, le déplacement. Et tout ça, c'est encore une chose que je travaille encore aujourd'hui, parce que, bah, c'est vrai que c'est super compliqué à estimer. Et du coup, c'est ça qui va amener à la rentabilité. Et encore aujourd'hui, c'est encore trop, je suis encore beaucoup trop loin pour estimer ça,
Parce
par rapport à
que toi, t'as estimé, comment t'as fait pour estimer tes prix? Est-ce que t'as regardé ce qui se faisait sur le marché ou
Oui, bah, en soi, en fait, je me suis basée un peu sur ce qui se fait aux alentours, donc des photographes indépendants. Moi, je travaille à l'extérieur, donc j'ai pas de local, donc j'ai la charge en moins du local, du lieu. Mais par exemple, c'est avec le forfait à l'heure, mais aussi à l'image. Donc à l'image que je fournis, donc une image finie, donc une image travaillée, retouchée, triée, je fonctionne par des forfaits. Donc des forfaits à de temps d'image et pas en fonction de trop de temps, parce que aujourd'hui, en fait, je peux mettre un certain temps à faire des images, mais dans 2 ans, je peux mettre, par exemple, 10 fois moins de temps pour les mêmes images. Donc c'est pour ça que je fais plutôt des forfaits
À
à
l'image.
l'image. Donc par exemple 10 photos d'une certaine technique sera un tel prix.
Parce que moi, j'ai vu que je propose aussi un service. Moi, je l'ai calculé. J'ai essayé de faire un calcul. Je sais pas si c'est la bonne méthode ou pas, mais je suis parti d'un, on va dire, d'un SMIC et combien de temps ça me prend de faire tel service. Et donc j'ai fait un calcul comme ça. Et puis après, naturellement, j'ai fait un peu comme toi, regarder un peu ce qui se fait sur le marché, j'essayais de coller à ce qui se fait. Mais la critique que j'avais eue, c'est que c'est pas forcément la meilleure méthode de regarder ce qui se fait sur le marché. Enfin, c'est une des méthodes, mais il faut être hyper critique dessus parce que du retour que j'en avais eu, c'est que si l'autre fait une erreur, potentiellement, tu es en train de te baser sur quelque chose qui est faux, en tout cas qui ne marche pas, etc. Et donc, de faire vachement attention à ça. Et évidemment aussi de pas faire, de pas être trop en dessous du marché, même si on a peut-être ce sentiment d'illégitimité par rapport à d'autres, quoi que ce soit. Voilà. Et puis, des fois, ça nous amène aussi en fonction de la clientèle que l'on veut cibler. Des fois, ça attire une clientèle qui n'est pas pertinente par rapport au service que l'on propose. Et le prix joue beaucoup là-dessus.
Moi, j'ai eu aussi un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Donc, pour fixer des tarifs, c'est pas forcément facile. Mais j'ai pris le problème un petit peu peut-être à l'envers. J'ai regardé un petit peu, mais combien de temps je pouvais travailler dans la semaine, combien de personnes je pouvais accompagner, parce que je me souviens que quand j'étais en structure, je bossais allez, 40-45 heures par semaine. Avec de l'accompagnement humain, j'ai tenu parce que j'étais jeune, mais plus je vais avancer en âge, moins j'aurai de capacité en fait à accompagner comme ça dans la durée. Donc je me suis dit je peux accompagner allez sur 15-20 heures et j'ai regardé après combien il me fallait pour vivre. Et en gros, sur les séances que moi je propose en individuel, c'est du 50 euros par séance. Et ensuite, donc, il faut enlever les charges, etc. Sur ces séances-là, c'est de l'individuel. Mais pour pouvoir s'adapter aussi à des personnes qui ont moins de moyens, je travaille aussi dans des associations où là, ça va être des séances de groupe et ça va être plus accessible après aux personnes financièrement. Mais le but, enfin moi en fait j'ai pas vu beaucoup de changements financièrement, j'ai juste vu que je me suis libéré en fait 2 fois plus de temps. Ma semaine là à l'heure actuelle c'est allez 15-20 heures et ensuite j'ai tout ce qui est paperasse, facture, etc. à faire. Mais ça je le compte pas parce que c'est quelque chose qui me prend pas forcément autant d'énergie que avoir une personne en face pendant 1 heure, essayer de trouver des solutions, essayer de mettre en place quelque chose pour permettre à la personne d'avancer.
En fait, t'offres tes services à la clientèle que pendant 15-20 heures, c'est ça?
Ouais.
Ok, d'accord.
C'est ma limite en fait. Je sais que si je vais au-delà.
Ben, ça sera celui qui va venir sur la 21e, 22e, 23e heure. Ben, je serai plus à 100% de mes capacités et je veux pas facturer un service
Oh, toi, t'es
si
pas
la personne
capable.
s'y retrouve pas
Ok.
derrière.
D'accord, ok.
Dernier thème, rapidement avant de passer à la conclusion, les freins que vous avez rencontrés dans l'entrepreneuriat, peut-être la partie la plus difficile que vous vivez au quotidien, et les obstacles rencontrés soit au départ, soit que vous rencontrez encore.
Ouais, moi je trouve que dans tout ce qui est structure, il y a une inertie avant qu'une décision soit prise, avant qu'on soit entendu ou autre. C'est comme si on conduisait en fait un gros paquebot, et en auto-entreprise, pour reprendre l'image, ça serait plus comme si on était sur un jet ski par exemple. On peut vite prendre des décisions, les adapter au maximum. Après, c'est sûr qu'il y a un risque financier quand, ben, par exemple, quand moi j'ai investi financièrement pour avoir un local, ou ben, s'il n'y a pas de client à la fin du mois ou pas de patient, ben, il n'y a pas de rentrée d'argent. Donc financièrement, il y a ce risque un petit peu plus par rapport à la structure. En structure, même si on a personne qui vient dans la semaine, ben, c'est la structure qui va assumer le risque financier. Mais en faisant un petit peu de publicité, arriver avec le bouche à oreille, en faisant un travail correct, je pense qu'on peut vraiment s'en sortir facilement.
Bah c'est sûr que dans les freins comme ça, il peut en avoir pas mal. Bah, par exemple, moi, celui que j'ai rencontré énormément, c'était être formé. Parce que bah, bien sûr, dans l'auto-entrepreneuriat, on a pas seulement la casquette de ce qu'on veut faire, la création, la finalité à la fin. Il y a aussi tout ce qui va être tout ce qui est annexe derrière. Et moi, en fait, je me suis retrouvée justement dans tout ce qui était comptabilité. Bah, justement, faire, ce serait anodin, mais faire une facture, faire un devis. Et là, aujourd'hui, là, on est face à la facturation numérique qui devient obligatoire à partir de septembre 2026. Trouver des outils justement pour pouvoir permettre de faire ça, devis, facturation, en fait, c'était quelque chose qui était assez complexe. Tout le côté administratif où on se rend pas compte de qu'est-ce que ça peut être. Et c'est ça qui m'a vraiment que j'aurais aimé à savoir dès le début, par exemple avoir une formation dédiée à l'auto-entreprise, comment arriver à se démarcher dans l'entreprise, donc ça veut dire faire de la communication, faire de l'administration, pour après jusqu'à aller proposer le service et faire le service. Et ça, c'est vraiment qui manque quelque chose qui peut être un frein aussi pour tous les jeunes qui veulent ou personnes qui veulent s'intégrer dans l'auto-entreprise, mais grâce à plusieurs témoignages, à des personnes qui peuvent nous épauler, on peut réussir là-dedans. Par exemple, moi, j'avais eu une structure qui m'avait un peu aidé, un petit peu, c'était TechGCOP dans les Landes, qui justement aidait pour les projets d'auto-entreprise et qui pourrait aider à dire, ben voilà, construire vraiment bien un projet pour pouvoir après créer son entreprise. Et ça, ça avait beaucoup aidé, mais administrativement parlant, bah, c'était grâce à une amie qui m'apprend encore aujourd'hui à faire quelques petits trucs pour pouvoir proposer des services de manière réglementée. Et voilà.
Moi, des freins, j'en ai eu pas mal. Le premier frein, ça a été naturellement le frein financier. Ça a été de... Même en fait, avant ça, même c'est le projet, réussir à construire un projet qui paraisse rentable pour les banques que j'allais solliciter. Ça, c'était pas forcément évident parce que il a fallu un peu jongler entre la vision que moi j'avais du projet, les besoins que j'avais pour qu'il soit pour qu'il corresponde en fait à la vision que j'en avais. Et en même temps, la réalité des banques qui peuvent pas non plus financer tout et n'importe quoi, qui ont leurs propres contraintes et m'adapter à ça. Aujourd'hui, j'ai dû pour l'histoire, moi j'avais vraiment eu comme projet de me dire, bah j'achète un local, je pars directement sur un achat pour rentabiliser pour pas perdre de l'argent dans un loyer entre guillemets. Et directement investir dans du mur, dans du solide, et en comptant sur la rentabilité du lieu. Naturellement, les banques ont pas suivi parce que pour elles, c'est beaucoup de risques pour un jeune entrepreneur, quelqu'un qui a pas d'expérience de se porter garant d'un tel projet, surtout sur une activité qui est en fait très jeune. L'univers du jeu de société est un boom actuellement, mais dans un contexte qui est pas forcément évident et sur lesquels les entreprises ont pas forcément de recul sur la partie barrageux également. Donc voilà, il y a eu cette première contrainte là, donc du coup de trouver les financements nécessaires au projet. Ensuite, la deuxième contrainte, c'est le support, enfin le support, le soutien de l'entourage pour le ouais, pour monter ce projet-là. Parce que même si actuellement je suis tout seul, je suis le seul gérant, il a fallu quand même qu'on me soutienne, ne serait-ce que moralement, pour poursuivre ce projet-là. Pour, il peut arriver souvent que on soit démoralisé parce qu'on n'arrive pas à avancer dans le projet, on n'arrive pas à trouver le local, on n'arrive pas à trouver les financements. Et si on n'a pas l'entourage qu'il faut ou nécessaire, ben on peut vite désespérer. Lors du montage du projet et même pendant, c'est hyper important d'avoir des gens sur qui on peut compter, qui peuvent des fois juste filer un petit coup de main pour dépanner à l'occasion, et même moralement pour lorsqu'on a un petit coup de mou, recharger un peu les batteries et continuer, voilà, et faire en sorte que ça puisse tourner, parce que naturellement tout n'est pas toujours, enfin tout ne se passe pas forcément bien. Dans l'entreprise, moi pendant les travaux, ça a été l'enfer. J'avais pas grand chose à. En fait, j'ai juste fait de la rénovation de local, mais en me disant bon, les travaux, pour diminuer le coût, j'ai essayé d'en faire le plus possible moi-même. Et quand on va sur internet et qu'on voit des vidéos de mecs qui montent les trucs un peu rapidement, on se dit bon, ça va, ça a l'air simple, faut juste acheter ça, il y a 2-3 choses à acheter. Et au final, en fait, c'est une galère, quoi. Et c'est là où on se rend compte que, effectivement, poser une plaque de Paco, ça nécessite de la dextérité, ça nécessite d'avoir une vision, etc. Et que c'est pas si simple que ça. Ça se fait, mais le professionnel, il va mettre une petite heure. Moi, je vais mettre la matinée à poser la plaque de Paco, quoi. Donc, il y a eu plein de choses comme ça, du coup, qui a fait que ça m'a mis en stress par rapport au délai, parce que il y a une notion de temporalité à avoir en étant chef d'entreprise, surtout dans mon secteur, encore une fois, où la période compte vraiment. Si j'avais ouvert, là, j'ai pu ouvrir avant Noël, ce qui a fait que j'ai pu connaître un bon démarrage, parce que je suis tombé juste un peu avant les fêtes et du coup, faire marcher mon entreprise. Mais si je serais tombé une à deux semaines après les fêtes de Noël, c'était mort. Enfin, j'aurais jamais vendu ce que j'ai vendu pendant la période de Noël, et du coup mon démarrage aurait pas été celui que j'ai connu maintenant. J'aurais pas pu me faire connaître comme je suis connu maintenant dans Dax. Je dis pas que j'ai une renommée de fou, mais les citoyens de la ville m'ont identifié pour certains, me connaissent, passent dans la rue, sont contents de me voir. Et voilà. Et ça, c'est grâce au passage qu'il y a eu pendant cette période-là. Donc ça a été voilà. Donc pour revenir sur les freins. Oui, c'est important d'être très bien entouré pour toujours avoir quelqu'un sur qui compter, ne serait-ce que voilà, pour être toujours d'attaque et pas se laisser abattre. Voilà, il y a l'administration française qui est un calvaire. Je sais pas si, je pense que oui, on va dire ça. Où on a beaucoup de paperasse à faire, que ce soit pour l'USAF, les impôts, pour la comptabilité. Ça, c'est un truc que moi, j'essaye de faire au mieux, de m'y intéresser, etc., mais c'est pas facile. L'administration française est très compliquée. Elle est pas complexe, elle est vraiment compliquée. Des fois, on n'y comprend rien du tout. Et on se retrouve même dans des situations où les choses se mordent un peu la queue, ou pour avoir tel papier, c'était ça. Pour avoir une licence, il a fallu j'ai mon numéro SIRET, mais pour avoir mon numéro SIRET et dire que j'ai été une activité de débit de boisson, il fallait la licence. Donc il y avait des choses qui se mordaient la queue et j'étais là, mais en fait comment je fais? Je peux pas avoir l'un sans l'autre et l'autre sans l'un. Donc ils m'ont dit débrouillez-vous, nous il nous faut ça, on n'y peut rien. Donc j'ai dû par la force des choses réussir à me débrouiller. Mais c'était absurde, quoi. C'était vraiment absurde de se trouver dans une telle situation. Et donc on a fait comme on a pu. Au pire, c'est passé. Mais j'ai perdu du temps, de l'énergie pour un process administratif qui n'était pas clair. Et ça va arriver encore et encore. Et voilà. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, j'hésite pas à m'entourer de professionnels, à déléguer, même si ça me coûte de l'argent. C'est de la tranquillité d'esprit que je peux avoir et des soucis en moins que j'ai pas besoin de gérer, parce que le temps, autant l'argent je peux essayer d'en trouver, autant du temps, ça par contre une fois qu'il est perdu, je peux pas en avoir en rab quoi. Donc il faut ça j'essaye de vraiment conserver enfin d'utiliser mon temps à bon escient quitte à ce que je le paye entre guillemets.
Merci à vous d'être venu. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Peut-être sur vos réseaux, ton adresse, OFAT.
Moi, vous pouvez me retrouver 35 rue Neuve à Dax. Sinon, vous pouvez me trouver sur Instagram et Facebook. Voilà. Je partage toutes les infos là-dessus. N'hésitez pas à passer au magasin.
Moi, ce sera surtout sur les réseaux sociaux, sur mon site internet notamment. Donc, c'est liodeclerc.fr. Donc, Declerc, c'est D-E-C-L-E-R-C-Q. Et sur Instagram aussi, également. Mon Instagram est dans mon site internet, donc n'hésitez pas à aller dessus.
Bon, pareil, donc sur mon Instagram, Dorian Bazerc, mon site internet aussi. Et après, donc au 15 rue de la Feuillée à Bayonne, c'est l'espace Igosco.
Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de l'Instant Wipsy. Nous espérons qu'il vous plaira. On a eu de super invités. Merci beaucoup de vous être déplacé pour cet instant Wipsy. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes donc sur la chaîne YouTube de la Maison de l'Europe et sur Souvenir FM. Nous remercions aussi nos auditeurs. Pour ne rien rater, n'oubliez pas d'activer la cloche sur YouTube et de vous abonner. Portez-vous bien, à bientôt et on se retrouve pour le prochain instant Wipsy.